Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 11 février 2021, en direct des studios de choc.ca. Une demi-heure plus tôt, nous sommes à 18h en raison d'un certain couvre-feu qui, ça a l'air, dérange personne. N'est-ce pas?
Ben, en tout cas, sauf nous autres, parce nous autres, on a fait changer notre...
C'est ça.
Notre plage horaire.
Donc, on est les chialeux de service, évidemment. Ouais. Donc, 18h à 19h pour cette semaine, peut-être sûrement dans deux semaines aussi. Pour les gens qui nous écoutent en direct, évidemment, les gens en balado, ça change pas grand-chose. Donc, choc.ca, nous avons une page d'émission pour nous écouter.
Excuse-moi, mais je l'ai entendu souvent, le « Ah, moi, le couvre-feu, ça change pas grand-chose à ma vie. »
C'était ça que je faisais comme blague, c'est ça, oui. C'est moi, j'étais dans l'humour, sans rire. Donc, allez consulter notre page pour nos anciennes émissions, pour les émissions que vous avez manquées. Je suis Mathieu, en compagnie de Marie-Ève. Bonsoir.
Bonsoir, Mathieu.
Et Simon.
Salut.
Salut, Simon. Donc, aujourd'hui, plein de choses, comme à l'habitude. Nos enjeux sont toujours l'immigration, les frontières, le racisme, la sécurité nationale. Donc, on va avoir des chroniques, des échanges, évidemment, de la très, très bonne musique choisie
comme
par
toujours.
Notre équipe. Bien sûr, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on va parler, entre autres, des États-Unis, des actualités américaines avec Simon. On va parler aussi des actualités européennes avec Simon. Marie-Ève.
C'est un grand écart.
Oui.
Marie-Ève, elle parle pas aujourd'hui.
Oh, ça me surprendrait. Donc, Marie-Ève va parler des travailleurs migrants précaires ici, surtout ici au Québec, avec tout ce qui se passe dans les dernières semaines. Dans quelques instants, profilage, abus policiers, c'est beaucoup dans l'actualité, c'est inévitable. Hein?
Yes.
Donc, voilà, c'est le menu de l'émission pour aujourd'hui.
Puis toi, Mathieu, tu vas nous faire un agenda aussi un peu plus tard. Ça fait, je pense, peut-être deux émissions qu'on n'en a pas fait, là, tu sais, avec notre... Anus Horribilis.
Nos prédictions,
nos
le
prédictions,
quiz.
Tout ça, là. C'était des émissions chargées, donc.
Exactement. Donc, agenda et quelques brèves par-ci, par-là. D'ailleurs, Marie-Ève, tu me fais penser, je vais commencer avec une première brève.
Ah ben, oui.
Un premier réfugié climatique en France, point d'interrogation. C'est pas que c'est une catastrophe actuellement climatique en France, mais c'est un homme de 40 ans, d'originaire du Bangladesh, qui est en France depuis 10 ans, à qui on avait refusé la demande d'asile politique, mais on l'a reconnu comme étranger malade. Ils ont des beaux termes technocratiques en France, étranger malade, en raison de ses problèmes respiratoires graves. Mais malgré sa santé précaire, son permis de résidence n'a pas été renouvelé, sous prétexte que le Bangladesh pouvait lui offrir des traitements et les médicaments nécessaires. Mais à son grand soulagement, récemment, l'ordre d'expulsion vient d'être annulé par la Cour d'appel de Bordeaux. Car, en plus des critères de santé, la décision s'appuie sur des arguments environnementaux, à savoir les dangers liés à la pollution de l'air au Bangladesh. Selon certains chiffres connus, le Bangladesh est au 178e rang de l'index au niveau de la qualité de l'air. Il y a 13 fois plus de morts dues à l'asthme qu'en France, par exemple. Donc, c'est la première fois en France qu'un tribunal tient compte de l'environnement afin de justifier une demande de résidence pour quelqu'un de malade, étranger malade, comme je disais. Par contre, la notion de réfugié climatique n'est toujours ni définie ni reconnue par les conventions internationales. On parle plus de déplacé environnemental qui commence à être reconnu un peu plus, mais qui est toujours pas légal non plus au niveau international. Il y a des cas, il y a eu des précédents, entre autres des gens de certains archipels du Pacifique qui ont fait des demandes en Nouvelle-Zélande à cause de la montée des eaux.
Ouais.
Ça a été refusé, mais l'ONU a dit que ça n'aurait pas dû l'être, donc ça bouge là-dessus. Pour l'OIM, nos amis de l'Organisation internationale pour les migrations.
Nos amis, nos grands copains.
On les cite souvent, je veux dire, ils sont assez intéressants. Les réponses doivent être plutôt multiples, c'est-à-dire on parle plus, pas nécessairement de réfugiés cas par cas, mais d'accords de libre circulation, de protection temporaire, de visa pour des populations menacées par les changements climatiques. Il y a des conventions qui ont commencé à émerger au niveau interne des pays, donc des gens déplacés dans leur pays à cause des changements climatiques, la convention de Kampala 2012. Le pacte sur l'immigration 2018 commence à parler d'environnement aussi. Donc, c'est un débat naissant qui va être de plus... Ben, pas naissant, mais qui commence à prendre un peu plus d'ampleur. Les médias en parlent. Et le programme Environnement des Nations Unies prévoit qu'il y aura 250 millions de déplacés environnementaux d'ici 2050. Donc, questionnement intéressant quand même.
Oui, puis j'imagine que les définitions, justement, vont être appelées à se préciser, à
se juridiquer.
Oui, socialiser, en tout cas.
Au niveau juridique, entre autres, au niveau des conventions internationales. Donc, ben voilà, on y voit quelques notes de musique, puis Marie-Ève nous parle d'un sujet très local et très intense, profilage abus policiers. « Donc, Marie-Ève, est-ce que tu vas nous parler de Police Repentigny Formation Profilage qu'on a vu au dernier Bye Bye?
Non!
Je te laisse la parole.
Nos amis de Repentigny.
Oui, ils sont très bons.
En fait, c'est ça. Depuis quelques semaines, je sais pas trop ce qui se passe, mais il me semble que les cas de profilage d'abus policiers visant particulièrement les personnes racisées puis les Autochtones explose. T'sais, bon, on est habitué, il y en a souvent, mais là, il me semble que c'est plus intense, tu sais, depuis quelques semaines. Évidemment, là, je reviendrai pas sur l'affaire Camara, puisque, bon, les grands médias en ont largement traité, mais je dirais peut-être ceci, c'est pas parce que il y aurait peut-être eu erreur de bonne foi, et là, je mets des gros guillemets en gros caractère gras à « de bonne foi », donc, c'est pas parce qu'il y aurait eu une erreur de bonne foi qu'il n'y a pas eu également profilage, hein? Contrairement à ce que de nombreux gérants d'estrade s'acharnent à essayer de nous convaincre, l'un n'exclut pas nécessairement l'autre.
Exactement. Ouais.
Le cas de M. Camara, lui, s'ajoute à un autre cas un peu moins médiatisé de M. Yeboah. Cet avocat noir dont on a un peu entendu parler, là, qui a été arrêté à Montréal alors qu'il était au volant de sa voiture. Il était accompagné de sa fille de 15 ans. Et les policiers ont fini par l'arrêter et le menotter parce qu'ils l'ont soupçonné de détenir un faux permis de conduire, mais sans aucune là, preuve, évidemment. Là, c'était complètement gratuit comme suspicion. Monsieur Yeboah s'est ramassé menotté à l'arrière de la voiture du SPVM. Pendant qu'il était là, les flics se sont mis à fouiller dans son téléphone. Je vous rappelle que Monsieur Yeboah est avocat. Hein? Alors, il leur a dit qu'il leur faudrait un mandat puisque son téléphone contient des informations concernant des clients, notamment, hein, qui sont couvert par le secret professionnel, ce à quoi les policiers ont éclaté de rire. Et ils ont ensuite fouillé son portefeuille et c'est là qu'ils ont trouvé sa carte du barreau de Montréal à M. Yeboah. Donc, selon lui, selon M. Yeboah, c'est à ce moment-là que les policiers ont comme un petit peu changé d'attitude et ont décidé de le relâcher en lui donnant simplement une contravention pour utilisation du téléphone au volant, alors que lui-même n'utilisait pas le téléphone, c'était sa fille. Alors, Monsieur Yeboah entend bien sûr contester l'annonce l'amende, ouais, c'est ça, et aussi déposer deux plaintes, une en déontologie policière, puis l'autre auprès de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Inutile de dire là que cette expérience-là a été aussi traumatisante pour sa fille qui, elle, a filmé la scène et pris des photos jusqu'au moment où une policière lui aurait demandé d'arrêter si elle voulait pas avoir des problèmes.
Ça va très bien.
Ça va très bien.
Ben, juste dans ce cas-là, il y a qu'à peu près 18 infractions au code de déontologie.
Oui, non, c'est ça. J'ai pas tout dit. Il y a plus de détails là, dans les articles qui sont sortis.
Que vous
évidemment.
Irez voir, d'ailleurs.
C'est ça. Ouais. Mais comme je le disais au début de mon blog, les cas de profilage d'abus policiers visent aussi particulièrement les Autochtones et particulièrement les personnes en situation d'itinérance. On apprend dans un rapport qui a été compilé par 5 chercheurs et 3 organismes communautaires, rapport intitulé « Judiciarisation de l'itinérance à Montréal ». Donc, on apprend qu'entre 2012 et 2019, il y a eu 5 fois plus de constats d'infraction qui ont été remis aux personnes itinérantes autochtones à Montréal, les femmes autochtones étant particulièrement surreprésentées. Pour aller plus dans le détail, là, dans les chiffres, il y a plus de 4% des un peu moins de 51 000 là, constats d'infraction qui ont été analysés sur 5 ans. Donc, 4% qui ont été remis à des personnes qui avaient déclaré l'adresse d'un organisme qui dessert les populations itinérantes autochtones. Un chiffre aussi qui est en constante augmentation. Juste pour vous donner une idée, en 2018, il y a 547 itinérants autochtones qui ont reçu un constat d'infraction contre 135 en 2012. Plus de 65% ont été remis par des agents du SPVM et près de 35% à peu près par des agents de la STM.
C'est une autre plaie, ça.
Oui, une autre papier de plaie. Les chercheurs estiment que la situation est d'autant plus préoccupante que les données recueillies indiquent en fait une double discrimination qui s'articule en fait qui s'articule à la fois avec le profilage racial mais aussi le profilage social puisque la judiciarisation de l'itinérance tient essentiellement à la répression de la consommation puis du fait d'être en état d'ébriété sur la voie publique puis surtout auprès des personnes autochtones. Puis comme je le disais, mais les femmes autochtones sont triplement discriminées, elles. Elles reçoivent proportionnellement davantage de constats d'infraction, 25% en fait, que les femmes non autochtones en situation d'itinérance aussi, qui est, elle, de 12 à 15%. Et selon un autre rapport, comme si c'était pas assez...
Ça s'accumule, les rapports.
Ça s'accumule, ouais. Oui. Cette fois, de 3 professeurs du département de sciences juridiques de l'UQAM, en collaboration avec Femmes autochtones du Québec, et qui visent à comprendre, en fait, la réponse du SPVM là, face aux disparitions et assassinats de femmes autochtones. Le manque de services adaptés au sein du SPVM contribue même à accroître le risque leur risque à elles de disparaître ou d'être assassinées. C'est la principale conclusion du rapport. Les autres conclusions qui, en fait, ce rapport-là survient, faut le rappeler quand même, 6 ans après la signature d'un accord qui visait là à améliorer les interventions du SPVM auprès des personnes autochtones. Donc, les conclusions sont vraiment accablantes. On parle de traitements discriminatoires et violents de certains policiers, profilage racial, de méconnaissance ou même d'ignorance complète des procédure à suivre en cas de signalement de la disparition d'une femme autochtone. Dans le cadre de cette recherche-là, qui s'est déroulée sur 2 ans, le SPVM a même pas été en mesure de fournir de documents pour, genre, la moitié des demandes d'accès à l'information qui ont été soumises. Ces demandes d'accès-là portaient spécifiquement sur les procédures en vigueur là, relatives à la dispersion des femmes et filles autochtones, mais aussi sur la marche à suivre auprès des personnes autochtones qui parlent ni français ni anglais. Et on constate, aux surprises, que le racisme systémique est bien présent
au
sein du SPVM, puisque selon les entrevues que les 3 chercheuses ont réalisées, la sensibilisation aux enjeux autochtones, en fait, relève davantage d'une bonne volonté individuelle de certains policiers ou policières plutôt qu'une vision commune ou d'un engagement institutionnel au sein du SPVM. Je vous rappelle que c'est exactement ça, la définition du racisme systémique. Je conclurai peut-être en vous parlant des recommandations, parce que le rapport fait quand même des recommandations. Malgré la création d'un poste d'agent de liaison autochtone en 2015, il recommande il n'y a toujours pas de collaboration appropriée et efficace entre les communautés autochtones et le SPVM. Donc, plutôt qu'un seul agent débordé par la charge de travail, l'étude préconise la création de vraiment toute une équipe là, de liaison afin de s'assurer de l'accessibilité aux services. Aussi, ce qui se trouve au cœur du problème, ce sont évidemment les liens de confiance là, qui sont brisés entre les policiers et les autochtones. Ça a été largement documenté. Pourtant, le SPVM semble plutôt fonctionner comme si la confiance était établie, là, selon les chercheurs. Donc, elle presse vraiment le SPVM de vraiment adopter des approches culturellement pertinentes et sécurisantes pour développer la coopération, la culture, puis bâtir une relation de confiance. Puis, une troisième, peut-être, recommandation, c'est la mise sur pied vraiment rapidement là, d'une table de travail pour analyser les rapports d'événements rédigés après une dispersion ou un assassinat de filles ou femmes autochtones. Puis, même si le rapport a été rédigé indépendamment de la pandémie, Viviane Michel, là, qui est présidente de Femmes autochtones du Québec, rappelle la dangerosité du contexte chez certaines femmes en situation de vulnérabilité. Je finis avec une citation. Elle dit, en temps de couvre-feu et de pandémie, la femme victime de violences conjugales est confinée avec son agresseur. Elle peut pas aller vers les services. Elle est confinée avec la problématique à la maison.
Donc, le couvre-feu, c'est pas bon pour tout le monde, hein?
Non.
Non.
C'est pas bon pour grand monde.
C'est pas juste pour nous
autres,
hein? Non, c'est ça. Merci Marie-Ève.
Ben, j'aurais aimé ça vous parler de d'autres cas de profilage, mais peut-être qu'à la prochaine émission, je pourrais vous parler plus GRC, SQ aussi. Il y a beaucoup de cas qui sont sortis. Donc,
ben, les médias en parlent plus, les gens dénoncent plus. Donc, il y a un enchaînement, là, tout à fait. D'ailleurs, brièvement, je vais vous parler, moi aussi, de la police et des abus. À l'interne, en plus, il y a 3 mois, il y a eu un rapport qui est sorti qui s'appelait Rêve brisé, vie brisée, fait par le juge Michel Bastarache. Son mandat, c'était de reviser les plaintes des femmes, les employés, les policières de la GRC qui avaient été victimes d'abus, d'harcèlement. Il a donc reçu un dossier de 3000 plaintes à reviser, voir s'il y avait des liens là-dedans, s'il y avait du systémique, s'il y avait des tendances. Et celui qui croyait à du harcèlement mineur, Bastarache, au sein du corps policier, a découvert plutôt un harcèlement systémique. Donc, on reste dans les mêmes choses. Culture toxique, les hommes discriminent, harcèlent, violentent, mettent en péril la santé et la sécurité des femmes qui travaillent à la GRC. Presque pas de sanctions pour les hommes, même pour 31 cas de viol répertoriés quand même. Des récidives, à tous les yeux selon la hiérarchie, protection entre collègues masculins, des sanctions style harceleur a 2 semaines de suspension avec salaire ou on transfère la victime ailleurs. Il peut se venger après, donc ce genre de choses-là. Et lui, Bastarache, a constaté qu'il y avait eu 15 rapports depuis des années sur les problèmes à la GRC, qui parlaient toujours d'harcèlement systémique ou de dysfonctionnement au niveau des rapports entre les hommes et les femmes. Et 15 fois, le gouvernement n'a pas réussi à régler le problème. On dit qu'Ottawa trouve acceptable une telle situation, mais quand les résultats de recherche arrivent et qu'il faut agir avec les recommandations, ça ne se fait pas. Donc, ça ne peut pas se régler à l'interne, selon lui. Il parle de réformer le corps policier et même de changer les normes de recrutement. Et à un certain moment, il y a quelques années, il y avait 1000 femmes en congé de longue durée pour des raisons psychologiques en raison d'harcèlement à la GRC.
C'était épouvantable. 1000 femmes, puis en plus, il n'y a pas tant que ça des femmes à la GRC.
Partout au Canada, mais quand même, c'est sûr que c'est pas tant que ça. Fait que c'est sûr que, à ta suggestion, j'ai mis ça en parallèle avec une autre nouvelle, qui peut être assez inquiétante. On parle, la GRC veut s'attaquer à la violence envers les femmes inuites. Donc, il y a eu... c'est sûr. C'est à quelques semaines d'avis l'un de l'autre. Le rapport interne et là, l'externe avec les Inuits dans le Nord. Le fédéral est très actif dans la réconciliation, donc annonce de l'argent pour des refuges pour femmes violentées inuites. La GRC a signé une entente avec une organisation inuite qui s'appelle Pokiktutit Inuit Women of Canada pour protéger les enfants, femmes et personnes inuites. On précise que la GRC cherchera à mettre en œuvre les recommandations d'un rapport, un autre rapport intitulé « Contrer la violence fondée sur le sexe à l'égard des femmes inuites, un examen des politiques et des pratiques policières dans le Nunavut Inuit ». Nunangat Inuit, pardon, publié par l'organisme Inuit en question. On parle de services qui vont tenir compte de la culture et des traumatismes, de formation et de politiques sexo-spécifiques, une réponse plus adaptée, prolongement des affectations des membres de la GRC pour qu'ils connaissent mieux la culture. Mais ça, c'est une entente avec un organisme Inuit de femmes, quand même, aussi. Des postes pour les Inuits au sein de la police, etc. Les femmes Inuits sont quand même contentes parce que c'est le résultat de beaucoup d'années de travail. Cette entente-là, pour elles, ça permet de surmonter la méfiance envers le passé. Mais je cite quand même la commissaire de la GRC, il y a une femme depuis quelques années. Pour aller de l'avant, il importe de reconnaître les événements du passé, d'en tirer des leçons, d'évaluer nos actions actuelles et de collaborer avec les communautés, les peuples et les employés autochtones dans une perspective d'avenir. Qu'est-ce qu'on vient de dire sur l'interne à la GRC?
Oui, non, c'est non, ça.
C'est assez ironique. Mais ça répond quand même à une des recommandations de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. L'INFADA, exactement. Une des commissaires dit quand même que c'est une première étape, mais qu'il faut quand même des changements systémiques et structurels. On rejoint l'autre rapport. Donc, d'un côté, à l'interne, c'est la folie, c'est le bordel, c'est l'horreur, finalement. Et à l'interne, on veut faire des ententes avec les organismes Inuits, par exemple, pour diminuer la violence dans les communautés. Donc, quoi dire de plus là-dessus, hein?
Oui. C'est...
On va y aller en musique, Marie-Ève. On a beaucoup parlé de choses sérieuses. On va continuer après à parler avec Simon de ce qui se passe en Europe. On y va donc avec une pièce de Maccabi, de son vrai nom Christopher McFarlane. La pièce s'appelle Gentrification. C'est un single sorti en décembre dernier sur Pecking Records. C'est un artiste londonien reggae qui a une 20aine d'albums à son actif que je connaissais pas, qui est là depuis une 30aine d'années. Et cette tournée, écoutez bien le texte, il est très intéressant.
Have you noticed? They're taking the working class neighborhoods and turning them into middle class. Fast. It's called gentrification, but at what cost? Brixton was once a no-go area, but look at Brixton now. Brixton's become a prime location where everyone wants to go. It's a worldwide situation, a thing called gentrification, making more and more by displacing the poor. Estate agents are on come, property developers are come down. Gentrification, they are for sure. We used to love to go to Brixton Market, a very vibrant spot. Then we went down to Black Jet Music Store and the Weatherman Shop. But the face of the place start changing, local government start rearranging, making more and more by displacing the poor. Rent gone up and you're facing eviction, houses abandoned for dereliction. Gentrification, they are for sure. These places are found in the vicinity, very close to the city. They were once just for working community, never had to be too pretty. Workers of a certain ethnicity, they were not too picky. Nowadays if you don't own your own property, then I have no pity. All over the world it is happening, from London to Harlem to Brooklyn. Gentrification are the in thing. From Toronto to Cape Town to Berlin, look how the places are turning. Seems like the poorer people can't win. What a thing. For those who can afford to stay and afford the new amenities, that's okay. But for some of them it's not that way. They've lived here for decades and have to move away. Should they have to pay such a big price? Some of them have lived there their whole life, have to leave the place as it start look nice. I'm sure they could have been more investment that benefits all of the residents. Share out the cake, everyone gets a slice. Me nah blame the ones who didn't know. New houses on the market, that's all they know. They don't know about the to and fro. They just buying a new property and going with the flow. Some landlords, all they know is cash flow. They don't business about the pain and sorrow. There was a time when everyone you come, but now them can't wait for you to go. Talk about how the crime is low. New buildings and plants and trees, them a grow. Where next? Well, I don't know. You never know. Might just be Chicago.
C'était la pièce de Maccabi, la pièce Gentrification. On reste en Europe, Simon, et on t'écoute.
Ben oui, il y a deux semaines, on vous parlait de l'agence frontalière européenne Frontex,
oui,
qui est en genre de rebranding en mode expansion. Ben, on apprenait récemment que Frontex allait suspendre toutes ses activités en Hongrie. Ça fait suite à une décision de la Cour de justice européenne qui accuse la Hongrie de toutes sortes de choses, de ne pas respecter les lois européennes, notamment en ce qui concerne, premièrement, les refoulements de migrants vers la Serbie, qui fait pas partie de l'Union européenne, il faut le rappeler.
Mm-hmm.
Deuxièmement, les lois interdisant aux demandeurs d'asile de demeurer en Hongrie pendant l'examen de leur appel, ce qui est illégal. Donc, on leur dit de sortir avant qu'on puisse examiner leur demande d'asile. Et finalement, la détention de migrants dans des zones de transit qui sont particulièrement lugubres en Hongrie, qui consistent en des conteneurs entourés de barbelés, ce qui n'est pas conforme aux normes européennes. Là, on ne parle pas de normes hôtelières, là, mais elles sont déjà très basses là, pour les camps
Les demandeurs d'asile, oui.
Donc, toutes des choses constatées depuis des années par l'Union européenne, mais qui font l'objet d'un arrêté judiciaire depuis quelques mois, jugement que la Hongrie de Viktor Orban refuse de respecter.
Mm-hmm.
Il y a plusieurs raisons pourquoi des refoulements peuvent être considérés comme illégaux. Je vais vous donner les deux principales, les deux les plus fréquentes. Les expulsions de masse qui résultent d'une seule décision administrative, c'est interdit. Normalement, chaque dossier doit être étudié individuellement, donc chaque être humain doit bénéficier d'une décision qui lui est propre. Et les expulsions dites sommaires, c'est-à-dire souvent dès l'arrivée, aussitôt qu'on met le pied sur le territoire du pays, Les demandes d'asile sont même pas traitées. On expulse avant même, avant même d'avoir reçu une quelconque forme de demande. Ben, les règles de l'Union européenne, je crois qu'elles sont conformes aux conventions internationales. Donc, quelqu'un arrive sur le territoire, il faut traiter sa demande. Mm-hmm. Donc, ça, c'est des expulsions sommaires. Depuis 5 ans, il y aurait eu 50 000 refoulements illégaux à partir de la Hongrie. Donc, Frontex, qui a soit une conscience sociale ou une conscience judiciaire, je vous laisse le soin de
communication.
Ou politique, on sait pas. Donc, pour pas être considéré complice de ces pratiques illégales, comme je disais, elle suspend ses activités en Hongrie. Une grande première européenne. Oui, hein? Donc, c'est jamais arrivé auparavant que Frontex suspende ses activités dans un pays européen. Au même moment, il y a des allégations très sérieuses, très crédibles, comme quoi Frontex pratique aussi des refoulements illégaux en mer, notamment dans la mer Égée, à partir des eaux grecques vers les eaux turques, en collaboration avec les gardes-côtes grecs. Il y a une enquête qui a été ouverte. Infomigrant a reçu plusieurs témoignages de migrants qui racontent comment leurs embarcations ont été physiquement refoulées vers le large. Il y a même des vidéos qu'on peut voir de ce genre d'opérations illégales qu'on appelle aussi des pushbacks.
Oh, OK.
Toujours dans le giron européen, que je vole à Marie-Ève cette fois-ci, j'espère qu'elle m'en voudra pas.
Non, elle n'a rien à dire.
Elle dit rien, donc parfait. Une décision de justice du mois passé concernant les MNA, les mineurs non accompagnés,
oui,
ou mineurs isolés, dépendamment du jargon qu'on utilise. Normalement, c'est interdit de les expulser. Mais les États trouvent toutes sortes de moyens de contourner cette convention-là. Bien, avec son arrêt du 14 janvier dernier, la Cour de justice européenne dit désormais que les décisions prises avant la majorité d'un jeune ne peuvent plus l'être sans considérer au préalable les conditions de retour de l'enfant.
Mmh.
Aussi, on va uniformiser l'âge de ce qu'on considère comme la majorité. La Cour de justice avait été saisie de cette question-là pour un cas précis. C'est suite à un recours d'un Guinéen de 15 ans que les Pays-Bas voulaient renvoyer en Guinée-Conakry. Aux Pays-Bas, pour les questions d'asile, 15 ans, c'est, ben, c'est aussi absurde que ça a l'air, c'est considéré comme la majorité.
OK.
Donc, ce serait désormais possible d'expulser légalement des mineurs non accompagnés, mais les instances qui vont décider les expulsions devront, par exemple, enquêter sur les milieux familiaux, scolaires ou sociaux d'où provient le jeune et faire la démonstration, preuve à l'appui que l'on expulse vers un milieu sécuritaire ou, dans le jargon européen, on parle d'assurer un accueil adéquat. Il y a plusieurs pays européens qui ont des ententes bilatérales avec d'autres pays comme le Maroc pour reprendre sans condition les mineurs non accompagnés. Je crois que la France et l'Espagne ont des ententes bilatérales avec le Maroc. Ben, ces ententes-là deviennent invalides avec la nouvelle décision de justice.
Ah, parfait.
Les jeunes, pour bénéficier de cette protection, si on peut appeler ça comme ça, ben, ils doivent démontrer eux-mêmes leur minorité, bref, qu'ils ne sont pas majeurs et le fardeau de la preuve repose sur eux. Donc là, un des stratagèmes utilisés par plusieurs pays, dont la France, c'est d'étirer au maximum le processus de validation de l'âge du jeune, de le faire durer parfois des années jusqu'à sa majorité.
Ouais.
Et ensuite, voilà, on expulse. Donc pour l'Europe, je vais vous laisser là-dessus.
OK.
Je m'en garde pour les prochaines émissions.
Ah, ben là, c'est bien. Infomigrant, c'est une bonne source, hein?
C'est une bonne source, puis en plus, à chacun de leurs articles, ça redirige vers d'autres articles. C'est
qu'on n'avait pas vu passer.
Très bien fait, puis c'est chapeau à Infomigrant.
Oui, sur l'actualité en Europe, pas pour les migrants. Sur le web. Donc, on y voit que quelques notes de musique et on revient dans pas beaucoup de temps avec Marie-Ève et les travailleurs migrants précaires. Bonjour aux apatrides anonymes sur les ondes de choc.ca. Quelques notes de musique du groupe Crab, si je ne me mélange pas, groupe montréalais dont on vous fera jouer une pièce bientôt, une nouvelle pièce. Donc, on va se poursuivre immédiatement avec Marie-Ève, qui a quitté la console pour revenir en micro, pour nous parler des travailleurs migrants précaires. Montréal, Québec, Canada, j'imagine?
Surtout Montréal.
Surtout Montréal?
Ouais, surtout Montréal. Je suis assez montréalo-centré cette semaine.
Centriste, vas-y donc, Marie-Ève.
On le sait, hein, puis on le répétera jamais assez, le couvre-feu a des conséquences particulièrement importantes pour les plus vulnérables, les plus fragiles, marginalisés de la société. On a beaucoup parlé, et avec raison, des personnes en situation d'itinérance, mais assez peu des personnes dont le statut migratoire est incertain, notamment les sans-papiers. Petit rappel, rappelle, là, selon les chiffres de Solidarité sans frontières, une personne sur 23 n'a pas de statut permanent au Canada. Mm-hmm. Donc, et le couvre-feu a pourtant de lourdes conséquences pour des milliers de ces personnes-là.
C'est pas vrai.
Qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas le choix de travailler de nuit et qui sont, dans la plupart des cas, dans l'impossibilité d'obtenir là, une attestation de leur employeur pour justifier l'heure de placement entre 20h et 5h du matin. Puis comme elles sont souvent sans papier, ben elles craignent d'être interceptées par la police, ce qui pourrait leur valoir une contravention, voire dans la
des un cas, transfert vers l'agence.
Voilà, et donc leur expulsion. Donc ces personnes sont contraintes de quitter leur emploi, hein, qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Faut aussi rappeler que ces personnes-là sont toujours exclues des programmes d'urgence tant fédéraux que provinciaux, même si elles travaillent dans des domaines essentiels quand même, là, comme l'alimentation, l'entretien ménager, restauration, tout ça. Certaines personnes décident même de dormir chez leur employeur pour éviter de circuler pendant le couvre-feu. D'autres se rendent sur le lieu de travail avant 20 heures, même si le quart de travail commence pas, par exemple, avant 1 heure du matin. Puis elles vont se cacher en attendant que de commencer, ou encore vont se cacher après avoir terminé. Mm-hmm. Et compte tenu du fait que plusieurs doivent occuper plus d'un emploi pour subvenir aux besoins de leur famille, ben là, toutes ces complications-là entraînent un stress supplémentaire énorme. Déjà que sans le couvre-feu, les personnes à statut précaire vivent dans la peur de se faire contrôler par les policiers et donc, comme je le disais, d'être expulsées vers leur pays d'origine. Ben là, maintenant que les flics contrôlent les rues des villes et peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent, ben c'est encore pire pour elles. Mm-hmm. Puis c'est clair que elles ont raison d'avoir peur, en fait. Selon le Centre des travailleurs, travailleuses immigrants, le CTI, depuis le début du couvre-feu, ils ont reçu beaucoup de témoignages de travailleurs, travailleuses précaires de nuit qui ont vécu du harcèlement policier ou encore d'expériences d'interrogatoire policier qui durent, là, dans certains cas, plus de 40 minutes, même après leur avoir montré l'attestation de leur employeur. Mm-hmm. Dans ce contexte-là, CTI, un peu comme d'autres groupes là, de défense des droits des personnes migrantes, dénonce à la fois le harcèlement, les détentions, les mises à l'amende sans motif valable, puis l'intimidation arbitraire dont ces personnes font l'objet. Et surtout à Montréal, puisque on se rappelle, là, Montréal s'était déclaré comme une ville sanctuaire en 2017.
On a parlé il y a deux semaines, hein? Ouais.
C'est ça. Dans ce contexte-là, ce qui se passe, c'est d'autant plus hypocrite. Mais concrètement, le Centre des travailleurs migrants, il demande quatre choses. Il demande une politique de discrétion absolue, là, le don't ask, don't tell, envers les travailleurs, travailleuses sans statut, de la part des corps policiers. Il demande l'acceptation des attestations de l'employeur vraiment au pied de la lettre par la police pendant le couvre-feu, l'interdiction aussi d'interroger les personnes pendant plus de 10 minutes après qu'elles aient présenté leur attestation. La distribution de cartes d'identité municipale aussi pour tous les résidents et résidentes de Montréal, puis qui pourrait permettre aux travailleurs, travailleurs sans statut de s'identifier sans avoir à divulguer leur statut migratoire. Et l'offre immédiate de compensation financière pour tous les travailleurs, travailleuses, migrantes qui ont perdu leur revenu en raison du couvre-feu, peu importe leur statut migratoire, et ça de la part du gouvernement du Québec. On l'a vu un peu, mais ces revendications-là ont été relayées là par la mairesse de Villeray, Saint-Michel, Parquex, Juliana Fumagalli, et le conseil municipal Marvin Rostrand, qui ont déposé là une motion.
Marvin Rostrand,
qui ont déposé une motion le 25 janvier, une motion non partisane au conseil de ville, pour demander au gouvernement du Canada la régularisation du statut de toutes les personnes migrantes, au gouvernement du Québec de donner accès à toutes les personnes à son statut là, à son programme spécial pour les demandeurs d'asile, et aussi la création d'un fonds spécial pour les mesures d'urgence pour soutenir les migrants sans statut, puis leur donner accès à des soins de santé puis aux services sociaux. La motion devait être débattue le 5 février dernier, mais j'ai comme rien trouvé. Réussi à trouver si ça a bel et bien eu lieu, puis si oui, ça a été quoi le résultat. De son côté, il y a SSF aussi qui est très actif là, dans ce dossier-là. dénonce, bon, le fait que ni Québec ni Ottawa répondent aux appels là, d'un programme de régularisation, mais ajoute aussi que le couvre-feu représente un danger aussi pour la santé des personnes dans statut et sans statut. Elle donne l'exemple d'un homme qui était atteint de la COVID-19 puis qui a refusé de se rendre à l'urgence avant 5 heures du matin, malgré le fait qu'il vomissait du sang, là,
okay.
Mais parce qu'il avait trop peur d'un contrôle policier, tu sais, en se rendant à l'hôpital. Donc, tu sais, ce que SSF dénonce, dans le fond, c'est que tous les paliers de gouvernement, en fait, font peu de cas du bien-être là, des personnes sans statut.
Ils font rien, on en parle depuis plusieurs émissions. Là.
C'est ça. Fait que plus concrètement, en tout cas, si ça vous tente d'aider, SSF a lancé une levée de fonds pour soutenir financièrement les personnes sans statut, pour leur permettre soit de rester à la maison plutôt que de se mettre en danger en se rendant au travail. Pour celles qui ont perdu leur emploi à cause du couvre-feu, ben de subvenir à leurs besoins. Puis de soutenir aussi celles, les personnes qui n'arrivent pas à trouver un travail dans le contexte actuel, ce qui n'est pas évident. Donc, tous les fonds vont être directement versés aux personnes concernées, puis vont servir justement à couvrir là, des besoins de base comme le logement ou la bouffe. À ce jour-là, ça fait 12 jours à peu près là, que la campagne a commencé. Il y avait un objectif de 15 000. SSF a ramassé 12 500. Mais c'est sûr, je pense que ça va être prolongé. Donc, pour participer, vous avez juste à vous rendre sur la page Facebook de Solidarité sans frontières.
Entre autres pour les travailleurs de nuit là, qui ne peuvent pas aller travailler.
C'est ça.
Exactement.
Voilà.
Merci Marie-Ève. On va écouter quelques de musique et puis je vous reviens avec l'agenda.
Alors Mathieu, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine?
Ben c'est un peu inévitable. Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs à Montréal, au Québec, au Canada. Beaucoup d'activités, ça se passe malheureusement à peu près tout en ligne, évidemment. À l'intérieur du mois, il y a le festival Fondue au Noir, qui est plus axé sur les arts, qui est du 17 au 21, donc en fait, ben la semaine prochaine. Entre autres avec Sarah May, Lorraine Classune, René Désir, plusieurs artistes des communautés noires de Montréal et du Québec. Sinon, il y aura quelques événements en ligne. Un court-métrage s'appelle Un parcours de lutte et de liberté qui retrace 4 siècles d'histoire des Noirs en Amérique en danse contemporaine. Et il y aura aussi discussion avec la réalisatrice du documentaire Marie-Denise Douillon et le guide historique Rito Joseph, dont tu nous avais déjà parlé,
ouais,
Marie-Ève.
Qui faisait des tours guidés dans le Vieux-Montréal.
Exactement. Le 14, il y a une discussion qui s'appelle Racisme systémique, barrières psychosociales vécues par les minorités sexuelles afro-caribéennes. C'est assez précis. Le 19, une conférence discussion pour un féminisme décolonial. Toujours le 19, Black Lives Matter, 2 points, qu'est-ce qui a changé depuis dans l'industrie du cinéma au Québec. Une conférence s'appelle « Le rôle de l'idéologie raciale dans la colonisation en Afrique ». Les 25 et 26 février, le Théâtre Fougueux présente le procès d'Angélique, Marie-Joseph Angélique, esclave noire qui avait été accusée d'avoir brûlé Montréal au 17e siècle. Il y a Webster en direct avec l'histoire de la présence et de l'esclavage des Noirs en Nouvelle-France. Aussi, l'Afrique rencontre les Premières Nations en musique. Ça, c'est un spectacle, discussion entre des artistes des Premières Nations et des artistes d'origine africaine.
Ça va être intéressant.
Oui, le 26 février. Et le 27, il y a une entrevue avec le rappeur Sans Pression. Il y a des entrevues avec plusieurs artistes afro-descendants. Donc, moi, histoiredesnoirs.com pour plus de détails. Sinon, ben, une série qui s'appelle Pas de justice climatique sans justice sociale, qui organise sa deuxième discussion qui s'appelle Lutte des Suds et justice migratoire. C'est une discussion sur, la série, c'est une discussion sur les intersections entre les changements climatiques, la justice, la décolonisation et l'inégalité. Celle dont je vous parle, c'est mercredi le 17, donc à 19h en ligne. Il sera discuté de la place centrale qu'ont les luttes des Suds et les luttes pour la justice migratoire au sein du mouvement de justice climatique. On parle de recentrer le mouvement vers les causes profondes de la crise climatique et les besoins des populations les plus affectées par les systèmes à l'origine de celle-ci. Donc, on est vraiment dans l'intersectionnel. Les invités sont Alexandra Duvelski de l'Université de Sao Paulo, mais qui travaille aussi à Montréal dans le quartier Côte-des-Neiges. Une activiste anticapitaliste s'appelle Ellie. Et Adi Anne, qui est une militante à Solidarité sans frontières. Donc ça, c'est le 17 février, 19h en ligne. Et en terminant, une série de 6 webinaires de réflexion et de discussion sur différents enjeux, qui s'appelle « Droits humains et COVID-19, quelle perspective ?» organisée par la Ligue des droits et libertés, du 10 février au 21 avril. Le deuxième se passe le 24 février. Il s'appelle « État d'urgence et effritement de la démocratie », avec Véronique Laflamme du Frappru, Christian Nadeau qui est prof, et Louis-Philippe Lampron, que je connais de nom, mais je ne replace pas où il est. Sinon, ben, le petit descriptif, c'est « On l'a vu, la crise sanitaire, la COVID-19 et la gestion publique qui en est faite ont plusieurs impacts sur les droits humains de tous et toutes. Ils sont révélateurs d'un système économique et politique qui ne pense pas en termes de droits humains, mais plutôt avec des mots-clés comme rentabilité, profit et inégalité. » Donc, il va y avoir différents sujets. Par exemple, le droit à la protection sociale, là, c'est un droit nouveau qu'il faut promouvoir. Des enjeux sur la santé publique, outils numériques et services publics, racisme systémique dans le cadre des mesures sanitaires. Donc, ligue-des-droits.ca pour 6 webinaires, dont le deuxième est le 24 février à 18h30 en ligne. Donc, voilà, mesdames et messieurs, pour l'agenda que j'ai fait quand même brièvement, mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient ou qui se passent.
On a hâte de pouvoir le faire en réel.
Oui, là, on s'en va en ligne. Là, on s'en va en ligne. On va y aller en musique avec notre deuxième pièce de l'émission. C'est Maxime Gervais, la pièce Autocombustion. L'album s'appelle Une nouvelle forme de joie. C'est paru en novembre dernier. C'est en 7e position du palmarès choc francophone, cet album-là. C'est sur Kuchabata Records, qu'on aime beaucoup ici à l'émission. Et Maxime Gervais, qu'on connaît peu, est actif quand même depuis 2008. Donc, on y va.
Il me semble que ça fait trois accords, un peu comme titre d'album, Une nouvelle forme de joie.
Exactement. Oui, vous allez voir, c'est assez ironique. Donc, la pièce Autocombustion, Maxime Gervais. Maxime Gervais, Autocombustion, de son dernier album. Simon, le vidéo est le fun en plus, hein?
Ben oui, il y a plein de cascades vraiment pas difficiles à faire, là.
Dans le Chagrin Maisonneuve, c'est très, ouais. Très sympathique.
Le long de la rue Notre-Dame.
Exactement. Je vais, une petite brève, le titre c'est Black Lives Matter pour le Nobel de la paix, propose un parlementaire norvégien. Un certain Peter Hedde, député de la gauche socialiste en Norvège, qui propose donc le mouvement de défense des droits des personnes noires aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Mais il faut savoir que des dizaines de milliers de personnes sont habilitées à soumettre une candidature au Nobel de la paix, dont des ministres parlementaires, profs, anciens lauréats, blablabla. Les candidatures sont généralement tenues secrètes, à moins que leurs promoteurs ne choisissent de dévoiler leur choix, comme celui-là. Et il y a d'autres choix qui ont été dévoilés quand même. Julian Assange, le trio d'opposants de Bélarus qui sont dans, qu'on a vu beaucoup dans les dernières manifs en 2020, dans toutes les manifs en 2020. Les organisations œuvrant pour la vaccination, la liberté de presse, le réseau international de vérificateurs de faits FCN, ou encore l'ex-président américain Donald Trump.
J'espère
non,
qu'il va
c'est,
gagner.
C'est une blague.
Non, non, il y a quelqu'un qui l'a proposé. Non, il a fait la paix avec, non, mais Israël avec le Maroc, puis tu sais, toutes ces affaires, tu sais, en Palestine, pas en Palestine, mais ouais.
Corée du Nord.
Etc. Donc,
oui, c'est ça, la maison brûle, mais pendant ce temps-là...
on fait des soupers à l'étranger. Donc, le Nobel sera attribué en octobre. L'année passée, c'est qui avait gagné? C'était une organisation de l'ONU. Le Programme alimentaire mondial, le PAM. Donc, Simon, vas-y avec les États-Unis, justement.
Bien, suite de il y a deux semaines, j'avais déjà présenté assez rapidement un état de la situation de l'immigration sous Biden. Évidemment, ça fait pas longtemps qu'il est là. On mentionnait que le Muslim ban avait été invalidé par décret, qu'en lien avec les caravanes de migrants, la politique extérieure vis-à-vis du Mexique et de l'Amérique centrale était plus ou moins maintenue pour l'instant, que la construction du mur avec le Mexique était suspendue. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, juste que sur les décrets adoptés dès l'arrivée en poste de Joe Biden, il y en avait qu'on n'avait pas évoqués, qui sont déjà signés, par exemple, le maintien des protections envers les jeunes arrivés irrégulièrement aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants, les fameux...
Dreamers.
Merci Mathieu. Voyons, je t'ai regardé, j'ai tout perdu mon texte. Okay, la prolongation jusqu'en 2022 du programme d'asile spécial pour les Libériens qui ont fui la guerre civile.
Ça fait longtemps, ça.
Ça n'a pas fait la une du Journal de Montréal. le lancement d'une initiative d'équité raciale qui va concerner toutes les agences fédérales qui devront revoir leurs programmes et politiques afin d'éliminer la discrimination. Ça, c'est des énoncés de principe. On va voir vraiment dans la réalité comment c'est appliqué. La création d'un groupe de travail dont le mandat sera de réunir les centaines d'enfants migrants et leurs parents qui avaient été séparés par la fameuse politique très controversée de Trump. Il y avait eu au moins 5500 enfants migrants qui avaient été séparés de leurs parents. La mise en œuvre d'un plan pour gérer les migrations dans toute l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale.
Ouh là là!
Ça fait un peu peur.
Oui, hein?
Le président dit vouloir s'attaquer aux facteurs qui font fuir les gens de leur pays, donc violence, pauvreté, instabilité. Va-t-il s'occuper de son propre pays?
Ben, c'est exactement ce que je voulais
dire. De ses propres villes.
Donc, il va falloir... en tout cas,
par contre, je pense qu'il veut concurrencer Trump pour le prix Nobel de la paix.
Oui, en est-il conscient, même? Puis souvent, ben, en tout cas, on sait quand les États-Unis se mêlent des affaires de leurs voisins, surtout au sud, là, ça va pas toujours très bien. Un autre décret annoncé qui devrait être signé sous peu, si c'est pas déjà fait, la mise sur pied d'une commission de supervision de la police pour combattre le racisme institutionnel.
Gros contrat.
Parrainé par François Legault.
Yann Lafrenière.
Oui, c'est ça. Dans la catégorie à surveiller, donc ce qui est encore nébuleux pour l'instant, que j'ai pas réussi à trouver d'informations à jour, très claires, les autorisations de séjour temporaire, entre autres pour les personnes en provenance d'Haïti et d'Amérique centrale, donc il faudra vérifier si leur permis qui avait été annulé par Trump seront rétablis. La fameuse entente sur les tiers pays sûrs. Il n'y a rien à ce sujet-là dans l'actualité récente. Washington n'en a pas du tout parlé. Donc, on peut présumer qu'on souhaite la maintenir telle qu'elle. Au Canada, on le sait, elle est comme dans un flou juridique actuellement. Elle est invalidée par la Cour fédérale. Mais la suspension n'est pas valide maintenant. Elle va l'être plus tard pour laisser le temps au gouvernement.
Ben, il y a un appel actuellement, c'est pour ça. Du fédéral.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Mais normalement, la suspension de cette entente-là doit revenir bientôt. En tout cas, on va vous en reparler.
C'est ça,
qu'on se dit, ben, on comprend rien, on n'en parle pas. Il y a toute l'histoire des conditions d'hébergement désastreuses dans les centres de rétention aux frontières. Biden a promis que le personnel de l'ICE, les dirigeants, seraient tenus responsables des abus. Je ne sais pas comment, mais il y a toute une culture à changer. Ça, c'est pas évident. Il y a un projet de loi qui a déjà été envoyé devant le Congrès. Ça s'appelle le U.S. Citizenship Act of 2021, qui donnerait à 11 millions de personnes au statut précaire un statut légal temporaire pour leur permettre de demander la carte verte.
Ouais.
Et cette fois-ci, ben, la Chambre des représentants et le Sénat sont à majorité démocrate. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité intéressante, je dirais. Et si ça marche, si vraiment ça permet à 11 millions de personnes de refaire leur procédure et éventuellement d'être reçues, ce serait historiquement, ce serait quand même assez gros. Mais on va voir. Il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques. On sait que Biden était le vice-président sous Obama. Et sous Obama, il y a, pendant les 8 ans d'Obama, c'est un nombre record d'expulsions, plus que Trump, plus que les Bush précédents et les Clinton. Donc, à suivre tout ça de près. Biden a déjà eu son premier revers. Il avait décrété un moratoire de 100 jours sur l'expulsion de plusieurs catégories de personnes en situation irrégulière. Des républicains du Texas ont saisi leur tribunal d'État pour faire casser le décret. Ça a fonctionné. Il y aura une bataille judiciaire dans ce dossier-là. Et même si ça va se passer au niveau de l'État du Texas, ça bloque le moratoire sur les expulsions pour l'ensemble des États-Unis. On se rappelle, Trump, ça y arrivait souvent de se faire bloquer des décrets de cette façon-là parce qu'un juge de l'État de New York ou de Washington bloquait... j'en perds mon...
Décidait que c'était anticonstitutionnel.
C'est ça, pour envoyer ça pour un examen judiciaire plus complet. Donc voilà, pour les j'avais voulu vous parler des prix Nobel, mais tu m'as scoopé.
Ben oui, ben de toute façon, c'était une petite nouvelle parce que...
Ben, de toute façon, on sait pas.
Il y a des milliers de gens qui soumettent des candidatures. Hein,
Donc voilà, pour les États-Unis, beaucoup de dossiers qui sont un peu en suspens à suivre dans les semaines à venir.
Tu nous en parleras, Simon, des États-Unis.
Bien sûr, avec plaisir.
Merci, Simon. Quelques notes de musique et ça va tranquillement vers la fin de l'émission. Dernière nouvelle brève que j'intitule les losers du mois. J'avais fait les losers du mois, je pense, au mois de novembre ou décembre.
Le choix est grand.
Le choix est grand. Là, je reviens un petit peu en janvier parce qu'on n'a pas eu le temps de tout parler en janvier, évidemment. C'est la CAQ et puis le Bloc québécois et leur chef, évidemment. Dans le cas de la CAQ, c'est en lien avec Bouchra Manaï, qui est la nouvelle commissaire et la première et nouvelle commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination à Montréal, qui est une femme avec deux maîtrises, un doctorat, qui fait de la recherche, qui a travaillé à Parole d'exclus à Montréal-Nord, qui a fait plein de choses dans sa vie. Mais vous allez voir, la CAQ trouve que ça n'a pas rapport à cette nomination-là. Et son mandat est assez limité à Montréal. Hein. C'est élaborer un plan d'action pour conseiller la Ville sur les politiques à adopter et les gestes à poser dans le but de combattre le racisme et les discriminations systémiques au sein de l'appareil municipal. Donc, je vois pas en quoi ça regarde Legault, là, premièrement.
Ben, Legault, il pleure tout le temps l'ingérence du fédéral, mais là, il se mêle des affaires municipales.
Bon point. Mais Mme Manaï a été porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens qui a contesté la loi 21 devant les... qui conteste toujours actuellement la loi 21 devant les tribunaux. C'est ça, c'est là que ça bloque. Donc, Québec a vertement critiqué le choix de la ville. Il s'agit d'une erreur de la part de la ville à déclarer le cabinet du premier ministre Legault. Quand même. C'est assez... qui reproche donc ses prises de position par rapport à la loi 21, mais évidemment, elle n'est pas là pour ça. Et c'est quelqu'un qui a été choisi au bout d'un processus de sélection très, très complexe et long et compliqué.
Qui n'est pas politique.
Hein. Qui peut l'être dans la vie, mais ça, pour l'instant, son rôle, dont tu as raison, son rôle ne l'est pas. Mais elle a réagi avec philosophie en disant, je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions diverses, que ce soit sur mon identité ou mon parcours. Il faut établir un rapport de confiance et un dialogue. Ses priorités sont s'attaquer aux dossiers liés à l'embauche des personnes issues de la diversité à Montréal, ainsi qu'aux problèmes de profilage racial, dont on parlait aujourd'hui à l'émission.
Ouais, mais d'ailleurs, on ne l'a pas entendu du tout dans les cas de profilage qui sont sorti dernièrement. Là.
Non, je sais même pas si c'est en fonction déjà, mais enfin, c'est vrai qu'on l'a pas entendu du tout. Je sais pas c'est quoi son rôle là-dessus. Elle a déclaré aussi qu'elle avait hâte d'engager des conversations avec le futur ministre de la lutte contre le racisme, le futur ministre responsable de la lutte contre le racisme qui sera nommé par Québec suite au fameux plan d'action dont je vous ai parlé. C'est un peu ironique, je pense, quand elle disait ça, j'ai l'impression.
Ben non, ça va être Yann Lafrenière.
C'est ça. Ou Lionel Carman.
Nos deux meilleurs.
En terminant, Yves-François Blanchet, vraiment...
Il n'est pas dans les losers.
Ah oui, il a vraiment dérapé. Récemment, il a déclaré dans un communiqué, pas de vive voix, des questions se posent sur la proximité du nouveau ministre des Transports, Omar Al-Ghabra, avec le mouvement islamique politique dont il a été un dirigeant pendant plusieurs années. Ça, c'est le nouveau ministre fédéral des Transports libéral. Et de quel mouvement islamique politique on parle? On parle de la Fédération canado-arabe, dont il a été président en 2004 et 2005 à titre de bénévole. Tu sais, faut le faire quand même. Depuis quelques années, des accusations circulent sur le web selon laquelle M. Al-Ghabra aurait appuyé l'intention du gouvernement de l'Ontario en 2004 d'instaurer des tribunaux islamiques, la fameuse charia. Mm-hmm. Des accusations sans fondement colportées entre autres par Rebel News, cet internet proche de l'extrême droite. Et Blanchette s'est défendue en disant qu'il y avait ce monsieur Al-Ghabra avait marqué son opposition à l'inscription du Hamas sur la liste des groupes terroristes alors qu'il dirigeait la fédération il y a plusieurs années. Et ça, c'était à la mi-janvier.
Oui. Et c'est parce que c'est pas le seul qui a bloqué, pas le seul groupe.
Ben non. Puis à la fin janvier, il maintient ses propos sans fournir de preuves. Il a refusé toute demande d'entrevue. Finalement, dans un scrum, il a déclaré « Les Québécois ont des inquiétudes en matière de laïcité en matière de sécurité. J'ai posé poliment d'une façon irréprochable une question légitime et le gouvernement et le premier ministre ont l'obligation d'y répondre. »
Fait qu'il parle en notre nom, là.
Oui, oui, tout à fait.
Merci, M. Blanchet.
Ben, oui, écoute, chef d'opposition de je sais pas quoi, là, de la Montérégie. Donc, puis il se base sur un article du Globe and Mail, sans parler de Rebel Rebel News, de 2016, qui parlait d'une motion sur Israël, justement, et même le Centre consultatif des relations juives et israéliennes a déclaré récemment « Nous ne sommes au courant d'aucun lien sérieux prouvé entre M. Al-Ghabra et l'extrémiste politique islamiste. Nous n'avons jamais vu de preuves sérieuses qui provoqueraient une quelconque inquiétude. » Fait que Blanchette, là, tout le monde a dit que ça n'avait pas d'allure, mais il maintient, ça fait deux fois, communiqué en point de presse, donc le loser du mois avec Legault. On va terminer l'émission.
Ben oui.
Merci Simon, merci Marie-Ève.
Merci à toi Mathieu pour l'animation.
Ben oui, on t'applaudit à tout rond.
Fait plaisir, fait plaisir. C'était une belle émission, bien remplie.
Toi aussi,
moi aussi. Peut-être vous dire qu'on se revoit, mesdames et messieurs, on se revoit par les ondes et Internet le 25 février prochain à 18h, notre nouvelle heure temporaire. Et pour vous pouvez aller sur le site de Choc pour notre page d'émission, sur notre site apatridesanonymes.info.
Notre shit.
Et peut-être vous dire, je voulais saluer à la fin la jeunesse russe et la jeunesse birmane qui se battent contre des groupes pourris actuellement à main nue à peu près. Donc on les salue haut et fort, on en parlera peut-être dans les prochaines émissions. On va se laisser avec un groupe montréalais indie rock qui s'appelle Pottery. Leur album Welcome to Bobby's Motor est sorti en juin 2020. C'est leur deuxième parution. C'est un groupe assez récent. Et la pièce s'appelle Texas Drums Part 1 and 2. Donc Pottery, P-O-T-T-E-R-Y. Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée.
Et à dans deux semaines.
Funky Drum.